Retour Polysécur, épisode spécial. Je suis avec Mickaël. Comment vas-tu?
Ça va bien, toi?
Très bien aussi. Aujourd'hui, on va parler de AI. Ça fait partie de ce qui nous entoure essentiellement. Et pour la petite histoire, on s'est fait mettre en contact de façon par une personne interposée en 2021, si ma mémoire est bonne, justement parce que vous étiez une compagnie de AI et cette personne-là était en France et elle m'a mis en contact avec vous autres dans votre start-up à cette époque-là. Puis de vous démarrer. Fait que ça fait quand même 4 ans que cette mise en contact-là a été faite dans le contexte de cyberdéfense AI. Vous faisiez du AI avant même qu'on en parle maintenant, avant que ce soit ultra trop machin populaire et que les gens disent à peu près tout et n'importe quoi. Donc, vous avez quand même une expérience, une expertise, une bonne connaissance de ce que c'est. Et fast forward maintenant en 2025, on est rendu dans un univers où tout le monde est rendu des experts en AI. Et bon, la réalité, elle est un peu autre sur la capacité des gens à comprendre cette technologie. Fait que je vais te laisser un peu parler un peu de ça, puis on va glisser avec ça, essentiellement.
Je pense que c'est un bon début. Parce que, en fait, dernièrement, de plus en plus, le terme AI commence à pas me déranger, puis je trouve ça de plus en plus drôle de me faire interlocuter, de me faire envoyer des courriels pour avoir mon avis sur des sujets que je me demande, en fait, la personne qui m'envoie le courriel en premier lieu, sa compréhension du mot AI ou même de tout ce que ça englobe, parce que, tu sais, on s'entend, l'IA, à proprement parler, veut dire beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de segments de types d'algorithmes différents qui font différentes choses pour répondre à différents besoins. Puis aujourd'hui, il y a comme une préconception un petit peu, on va dire funny ou drôle, de justement, la plupart du monde, pour eux, du AI, ça s'arrête à ChatGPT. Où ça s'arrête à des chatbots, qui est une formule avec un algorithme qui est très intéressant, le concept derrière qui se rapproche de bien d'autres concepts que justement que l'AI englobe. Puis pour ben du monde, là, il commence même à avoir une dénotification en genre « Ah, ben là, il y a l'AI, puis il y a le machine learning.
Ouais. »
Tout le monde ouais. commence à entremêler les termes, puis ça amène des concepts assez intéressant ou assez drôle, parce que cette semaine, j'ai dû répondre à un appel d'offres qui m'a carrément sidéré, parce que je voyais des questions qui étaient justement par rapport au Québec. J'imagine que c'est des nouveaux standards qui ont été mis en place justement pour pallier aux solutions qui utilisent du AI, puis qui posaient des questions toutes relatives à la sécurité de l'information, comment que les données sont stockées, les métadonnées qui sont collectées par l'intelligence, les données appartiennent à qui. T'as des questions qui font un gros bon sens, mais que dans bien des cas, des questions pouvaient divaguer un petit peu parce que ça s'en va vraiment dans des territoires que tu te demandes c'est qui a composé la question, pourquoi qu'elle a été mise en place. Puis c'est là peut-être qu'on va pouvoir faire peut-être un petit pont avec tes connaissances côté peut-être plus français, côté GDPR, parce que selon moi, j'ai l'impression que le Québec essaie de suivre un petit peu le train de GDPR, puis de poser des questions systématiques qui vont dans la même direction. Mais quand il est question d'intelligence artificielle, on s'entend qu'on n'aurait pas de ChatGPT, on n'aurait pas de... En fait, je ne veux pas toutes les nommer parce qu'on pourrait en jaser longtemps. Je ne veux pas jaser de tous les chatbots qui existent, que le monde considère comme des AI. Mais c'est comme un peu désolé, mais il n'existerait pas s'il n'y aurait pas la capacité d'aller sur Internet, domper ouais. des données pour gratuit, puis s'entraîner avec. Là, on s'entend que OpenAI, tout ce qu'ils ont créé jusqu'à aujourd'hui, même chose avec Google, que j'ai oublié le nom de leur supposé...
C'est Gemini maintenant.
Gemini, bon. On s'entend que s'il n'y aurait pas accès à indexer le web, puis à savoir où trouver l'information, puis faire on s'entend que Google, en fait, eux, je comprends même pas que c'est pas eux qui ont pas eu la première version de quelque chose de cool à présenter, parce qu'on s'entend qu'en ayant un search engine aussi gros qui a accès à toute l'information de la planète quasiment, parce qu'ils l'ont indexé d'une manière ou d'une autre, que ce soit de l'information qui est positive ou négative, on s'entend, fait déjà des années que Google tu s'entends, ont des métadonnées sur les URL, c'est quel type de site que tu visites, pourquoi tu le visites. Tu s'entends que c'est comme ça qu'ils font de l'argent aussi.
C'est très drôle, puis c'est le fun que tu prennes ça, parce que un, tu sais, il y a déjà la différence entre le Gen AI, comme on le vit là, le LLM, toute cette chose-là, puis le AI de sens original, machine learning, tout ça, c'est comme deux univers. Les gens ont comme pas fait le lien que le AI existe depuis longtemps, mais le Gen AI est récent, puis c'est, comme tu mentionnes, c'est OpenAI qui l'a rendu populaire à travers ChatGPT. Et tout le drôle là-dedans, c'est que le T dans ChatGPT, c'est Transform. Et c'est Google qui a inventé le concept de Transform qui permet l'existence de cette conversation-là avec le AI, grands modèles de langage qui permet ce genre de choses-là. Fait tout ça est très drôle, mais en même temps, il faut regarder un peu comme, puis on le voit avec Apple à l'heure actuelle, Google n'était pas intéressé à faire un jouet à la ChatGPT. Il utilisait le AI, il l'utilise depuis très longtemps d'ailleurs, comme Apple aussi l'utilise depuis très longtemps, mais de façon très ciblée. Comme vous avez fait également chez Cyberdéfense, vous avez utilisé le AI de façon très ciblée pour arriver à un objectif très défini. Donc, vous avez utilisé la meilleure capacité et c'est beaucoup moins énergivore que les modèles, les grands modèles de langage que dans lesquels on a. Puis donc, cette nuance-là est très différente. Il faut faire un crush sur ton appel d'offre en question ou le RGPD ou loi 25 ou ces éléments-là. Ça malheureusement transpire l'incompréhension de la personne qui l'a écrit, qui a mélangé du AI avec du Gen AI et qui mélange l'entraînement de ces informations-là au passage, l'hébergement à l'étranger comme du cloud. Donc là, il mélange le cloud, il mélange les modèles, il mélange. Fait que là, il y a un amalgame de choses qui fait que la question, même si elle est, il y a une raison légitime de la poser, comme on a en Europe aussi avec le GDPR, elle est pas bien contextualisée. Et ça me rappelle, puis ça c'était très drôle parce que chez un de mes clients, à un moment donné, on avait fait l'acquisition de Cylance, qui est un modèle, qui est un moteur d'antivirus ou EDR maintenant qu'on appelle EDR, tout ça, qui utilisait l'intelligence artificielle, donc pas des signatures. Et c'est une chose qui a été développée en 2016, on est loin. Puis c'était un des meilleurs à l'époque, puis ça avait servi les besoins de la cause quand que ça avait été acquis par ce client-là. Mais quand on est arrivé dans les questions qu'on était commencé à te poser sur est-ce que vous utilisez du AI? Oui, mais il est comme bundlé dans un outil, puis on n'a aucun contrôle dessus. Il n'y a pas d'apprentissage, parce que dans des modèles comme ça, il n'y a pas d'apprentissage actif, parce que tu veux pas d'apprentissage actif dans des modèles comme ça. Donc, tu ne fais pas ça, parce que à part les grands langages, les modèles, mais les LLM, j'essaie de le dire en français, mais j'essaie de s'assurer de tout voir à chaque fois, j'essaie. Les LLM, eux, vont avoir un appétit à réapprendre parce qu'ils ont besoin d'être alimentés de façon constante pour raffiner le modèle. Mais quand on tombe dans des modèles comme le vôtre, dans le fond, vous cristallisez le modèle à un état défini à un moment donné, selon les modèles des données d'entraînement que vous avez définies, pour avoir des réactions prévisibles. Puis c'est important dans des outils comme le vôtre et dans beaucoup d'autres que c'est prévisible les réponses, qu'il n'y a pas d'allus, ce qu'on appelle les hallucinations dans les LLM, ben ça n'existe pas dans les modèles plus petits qui sont adaptés, conçus pour arriver à des situations comme ce que vous faites notamment, là, ce qui met un peu le weird dans l'appel d'offres que tu as eu à répondre. Là.
Effectivement, puis c'est tous ces paramètres-là que quand on met le portrait ensemble, t'sais, l'idée derrière est très bonne. T'sais, comme un petit peu pour aller, comme je disais tantôt, pour aller rejoindre nos compatriotes qui ont inventé le GDPR. C'est exactement ça qui amène toutes ces questions-là à avoir un bon raisonnement, mais c'est juste comme tout le côté technologique à un moment donné, je me pose des questions de le guardrail, il s'arrête où? Puis qui l'a mis en place? Parce que ça va être quoi? Mais quelqu'un décide d'updater ça, puis de vraiment quelqu'un qui a compris ou qui a fait ses devoirs sur la chose. Parce qu'on s'entend, comme tu l'as dit tantôt, on s'entend l'intelligence artificielle en tant que telle ou le machine learning ou l'apprentissage machine, c'est tous des termes statistiques qui existent depuis des années. Ce qui a changé beaucoup dernièrement pour en venir à ton point de LLM, que moi non plus, je n'essaierai pas de le dire en français. Ça, j'ai comme qui va m'arriver assez rapidement. On s'entend que les langages machines ont une chose en commun, puis c'est vraiment la persistance, mais le besoin matériel ou le besoin de ressources qui est de plus en plus grandissant. Puis c'est ça qui a changé depuis les années. C'était pas notre capacité à le faire ou à pas le faire. Ce qui a changé, on est rendu avec des outils de plus en plus performants, on est rendu avec des serveurs qui sont... Tu sais, avant, il y avait des compétitions de c'est quel pays qui avait le plus gros supercomputer, là. Aujourd'hui, je pense que le plus gros supercomputer, il se limite à comment tu es prêt à mettre d'argent. T'sais, on s'entend, tout est relatif. Fait que, tu sais, les capacités cloud, les capacités de cherche le mot en français pour processing, hein, d'exécuter de la donnée puis de pouvoir faire le roulement est décuplé. Si on retourne il y a 10 ans, même il y a 5 ans, je me rappelle, même quand nous-mêmes on a commencé, nos capacités ou les capacités de ce qu'on pouvait avoir accès, exemple dans le cloud public, sont vraiment aucunement reliées à ce qui se fait aujourd'hui et à qu'est-ce qui est accessible. Juste les cartes vidéo pour l'entraînement et tout ça, on est ailleurs, là, tu sais, puis les prix chutent dans différentes verticales, dépendamment de ce qu'on a besoin. Vu que justement la demande est de plus en plus présente, je pense qu'aujourd'hui, des outils qui se permettent de dire qu'ils l'utilisent pas d'une manière ou d'une autre ne font aucun sens, là. Tu sais, on s'entend, c'est quasiment que ça fait partie de notre vie. C'est quasiment à se demander, même nos comptables, je pense, qui utilisent l'intelligence. Tu sais, même Excel est rendu capable de faire certains tours de magie qui est pas très loin de ce qu'une application qui utilise machine learning serait capable de faire. Donc.
Ouais, puis tu sais, j'ai des exemples simples. Juste le fait que nos téléphones sont capables de prédire les mots qui s'en viennent, c'est du AI. C'est pas du Gen AI. C'est du AI qui est en arrière, sur lequel sont entraînés. Les autres sont entraînés un peu plus de façon dynamique parce qu'ils apprennent la façon qu'on écrit, donc vont sortir des mots qui sont prévisibles par rapport à notre façon d'écrire. Et puis en plus, c'est drôle parce qu'au Québec, on écrit bilingue. Donc, la façon qu'on a d'écrire, puis là, on remonte longtemps. Là. Moi, j'ai un iPhone depuis longtemps. Et les premières fois quand ces éléments-là sont arrivés, de voir comment l'autocorrect allait faire pour vivre avec un effet qu'on mélange du français puis de l'anglais de façon aléatoire dans notre conversation. Et ça va assez bien. Il est capable de prédire les mots, de les corriger, tout. Puis à peu près 9 fois sur 10, des fois là, 1 fois sur 10, ça fait des affaires drôles, là, mais 9 fois sur 10, c'est correct. Il prévoit les bons mots, il corrige bien, Et c'est ça, c'est du AI plus subtil, disons, qui, lui, effectivement, doit se retrouver partout. On en a partout. Les algorithmes de recommandation de Netflix, c'est ça. Les algorithmes de prédiction de Google dans la recherche, c'est ça. Ça fait longtemps que ces éléments-là sont là. Les éléments de correction d'image, ça fait longtemps que c'est là. Tous ces éléments-là n'avaient pas le charme et tout le marketing qu'on a avec le Gen AI qui est maintenant, puis somme toute, c'est pas si spectaculaire à mon sens. Ça aide, mais c'est pas spectaculaire du Gen AI là. C'est comme un outil généraliste. C'est comme si j'allais faire de la trail avec un char de ville. Fait que ça peut se faire, ça va faire des résultats, on va être capable de se déplacer. Ça se peut que tu restes pas dans la boîte, ça se peut que tu frappes ta panne à huile puis ton moteur il explose, mais tu peux bien t'en sortir puis tu peux ne voir le problème. Mais c'est un peu ça, on a un outil généraliste qu'on essaie d'y faire à peu près tout et n'importe quoi, au lieu de se développer des algos AI adaptés, comme vous avez fait d'ailleurs, qui permet, puis là, tu me faisais une démonstration de votre dernière itération, qui est tout à fait fantastique, parce que là, effectivement, là, on voit, puis là, il y a de l'interaction avec ce type de AI-là, dans le sens où vous énoncez le degré de fiabilité de l'information, de confiance que le modèle a face à la décision qui a été prise, comment il l'a évalué. Donc, l'humain est capable de comprendre l'élément et prendre une décision éclairée et aller plus loin avec ce type de choses-là.
Exact, puis même ça va encore plus loin, juste pour peut-être faire un autre petit pont vers le RGPD, pour le bien le dire en français cette fois-ci. tout le côté protection de la vie privée, puis ce qu'on appelle nous dans nos termes le privacy scoring, qui veut dire juste d'être capable de détecter, hey, il y a des données qui transigent par nos parfums intelligents, on est rendu capable jusqu'à un certain degré de prédire que comme, hey, on a vu des adresses courriels passer, on a vu des numéros de téléphone, on a vu certains patterns que l'intelligence, on a réussi à l'entraîner. Puis c'est encore un bel exemple de, comme tu l'expliquais tantôt, de comment que c'est important d'avoir des algorithmes sous-divisés pour chacune des tâches qu'on veut faire. On est rendu à un point qu'on est capable d'entraîner notre algorithme qu'on utilise pour filtrer du web, pour filtrer justement, hey, écoute, y a-tu quelqu'un qui est en train, genre, d'uploader son passeport? Y a-tu quelqu'un qui est en train d'uploader sa carte de crédit? Y a-tu quelqu'un qui est en train de X, Y, Z, un petit peu comme un fil de courriel pourrait le faire? On est rendu là, justement, que comme, tu sais, une fois que t'as mis plusieurs capacités ensemble, un petit peu comme que pour le monde qui pense que ChatGPT est le, c'est le dôme du AI, puis que là, après ça, tu tombes dans le MCP puis que c'est autre chose. L'idée reste la même. C'est que quand tu connectes les capacités ensemble, un petit peu comme tu le disais tantôt, prédictif sur un téléphone, une fois que tu as prédit ça, qu'est-ce qui empêche de pitcher ça justement à un autre algorithme qui va faire un autre traitement puis un autre traitement pour arriver avec quelque chose justement qui est super le fun à interagir avec, qui rend ça plus simple. Puis un des gros éléments pour nous, puis je pense qui est le gros défi aussi qui fait que le monde comprenne pas trop le côté, je pense, de l'intelligence artificielle en général, c'est la transparence. C'est d'être capable d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi que ces choix-là ont été faits? Pourquoi? Puis c'est surtout là-dessus qu'on met beaucoup d'efforts. Toute notre recherche, en fait, est basée sur comment je peux faire pour que je te dise, écoute, c'est pas magique mon outil, mais c'est pas loin parce qu'on s'entend avec l'intelligence, on peut faire des choses assez incroyables. Puis je pense que même avec un exemple stupide à la ChatGPT, aujourd'hui, on est capable, je pense que n'importe qui est capable d'être impressionné par les résultats. C'est cool d'être impressionné par les résultats, mais qu'est-ce qui te dit que le résultat que tu as reçu est valide ou qui est pas boiteux ou qui vient d'une source fiable? C'est quoi les mécanismes derrière ou c'est quoi les autres algorithmes qui vont aller valider l'information? Moi, c'est vraiment ce côté-là, en fait, qui commence à un petit peu m'énerver quand on me pose des questions un petit peu loufoques. C'est que la plupart du monde, on dirait qu'on a tendance à vouloir croire l'information directement. Quand que, plus qu'on est un gars d'informatique ou un gars qui a des connaissances dans le domaine, plus que tu te poses déjà la première chose moi, personnellement, la première chose que j'ai vue quand j'ai interagi avec ChatGPT, j'avais plusieurs points d'interrogation qui avaient besoin d'être répondus de, c'est aller chercher l'information où? Qui a vété cette information-là? C'est quoi les processus derrière? C'est qui est, puis on peut revenir un petit peu à l'appel d'offres que je parlais tantôt. Qui est propriétaire des données? Où est-ce que c'est allé chercher tout ça? Parce qu'en fait, c'est ça qui est dangereux aujourd'hui. C'est de dire, ben écoute, il y a un algorithme qui a fait de la magie devant nous. Puis est-ce que j'y donne le green light? Puis je vais donner un autre exemple. Tantôt, je te faisais la démonstration de notre dernier segment d'où est-ce qu'on en est rendu. Le monde sont souvent surpris quand ils regardent comment que notre interface est intuitif et tout ça. Puis si je leur expliquais à quel point qu'il y a de l'intelligence artificielle qui a généré tout ça pour accélérer le tout, puis qui a rendu le développement même encore plus facile, mais encore une fois, c'est la même chose dans le développement. C'est un outil fantastique. Mais là, dépendamment de qu'est-ce que tu demandes à l'intelligence artificielle ou au chatbot, en fait, qui va faire la job derrière avec d'autres algorithmes. Et où la ligne tranchante pour dire, ben, écoute, c'est pas un brouillon qui t'est sorti tout croche que, tu sais, le code qui est sorti de là ou l'interprétation qui est sortie de là, ben, ça appartenait-tu à quelqu'un? Ça vient d'où? Ou comme c'est, tu sais, en fait, est-ce que c'est utilisable déjà en partant? Tu sais, quand on demande, exemple, à ChatGPT de corriger un texte ou de nous réduire un texte, c'est toutes des questions à se demander. De comme les données s'en vont où? Qu'est-ce qui se passe avec? Puis est-ce que dans certains segments, est-ce qu'il faut être se soucier, en fait, du résultat? Parce que comme j'ai vu des exemples, en fait, puis j'ai donné des recommandations à certaines personnes, justement, qui sont assez, on va dire, néophytes dans le monde de l'intelligence artificielle. Puis qui ont décidé d'utiliser certains outils. Puis ils étaient comme, hey, check ça, j'ai fait une application.
Ouais.
Puis c'est là que ça devient très drôle rapidement parce que c'est la meilleure métrique en ce moment de pouvoir présenter ça à quelqu'un puis de bien l'expliquer. Parce que t'arrives devant l'application, prends un programmeur à côté qui t'explique puis qui va sacrer pour vrai pour t'expliquer comme à quel point que Ça se peut que l'AI ait fait vraiment quelque chose de tout croche, que finalement, c'est arrêté de moins de job de le faire par soi-même.
Ouais, ben, ils respectent pas nécessairement les règles, mais là, t'as touché tellement de sujets en même temps dans ce que t'as fait. Mais c'est intéressant parce que, effectivement, comme tu mentionnais, comme les MCP, c'est comme un coprocesseur dans le bon vieux temps des coprocesseurs mathématiques. C'est un coprocesseur qui aide l'AI ou le LM à aller plus loin. Ce qui est intéressant parce que, puis j'ai commencé à jouer avec ça un peu parce que ça vient comme par le côté réalimenté, mais ça vient pas modifier le modèle lui-même, l'entraînement du modèle qui dans lequel il est fait. Où je trouve ça intéressant, puis que malheureusement, j'ai pas vu personne qui en ont vraiment parlé qui l'aborde, comme tu l'as mentionné, puis c'est probablement la meilleure façon dans laquelle on va arriver. Et comment Google et Apple l'ont déjà déployé sur les téléphones, c'est déjà comme ça. C'est plein de petits agents spécialisés dans des tâches spécifiques qui sont orchestrés par un plus gros agent ou par un autre process qui vient au fait que le fait que le clavier soit amélioré parce que là l'autocorrect avec du AI, avec la correction des prises de photos, c'est un autre exemple de AI qui est de modèle qui vient améliorer les photos naturellement. Tous ces éléments-là qui sont développés autant par Apple que par Google sur leur téléphone, ils sont des exemples de beaucoup de petits composants AI qui, ensemble, arrivent à un résultat intéressant et qui a beaucoup moins de probabilité, comme tu le mentionnais, d'errer complètement dans le néant. Mais en même temps, là, tout le monde se concentre sur le LLM comme étant la grande solution où on va arriver là. Quand dans les faits, on a l'amalgame de plein de petites solutions, toutes mises ensemble, est beaucoup plus intéressante en termes de swarm, là, une espèce de nuée de petits agents qui vont chacun faire quelque chose ou représenter un volet qui va arriver, puis il va y avoir des niveaux de confiance, puis toutes les informations comme ça. Et on le voit un peu dans les modèles plus récents, là, tu parlais de où ils cherchent, soit ils cherchent dans sa mémoire, ce qu'elle a donné d'entraînement, soit les nouveaux modèles, le Claude, Gemini et puis ChatGPT le font. Il y a un module qui va sur le web. Dans le fond, il copie un peu ce que Perplexity a fait aussi, qui a initié ce mouvement-là de recherche. Fait qu'un agent il va chercher sur le web. Donc, ils ont déjà commencé à avoir des agents. Ils ne nomment pas comme ça, mais des petits agents. Ah, lui, il va chercher sur le web. Là, il descend l'information. Puis ensuite, le gros modèle le ramène puis le rend ça digeste dans comment on l'utilise. Et pour terminer sur par rapport à ce que tu disais, pour le code, ça aussi, les modèles généralistes sont corrects, pas génial. Enfin, si tu mets ça dans les mains d'un vrai développeur, il va s'arracher les cheveux parce que le code n'est pas entretenable après. C'est juste inutilisable ce qui est là pour une solution d'entreprise qui a une durée de vie dans le temps, des choses comme ça, en tout cas du moins dans les derniers. Cependant, les grands modèles ont commencé à développer des modèles spécialisés qui sont faits pour ça, qui sont entraînés spécifiquement sur du code de qualité qui a été vété avant, donc sont capables. Puis seul l'exemple, parce que c'est ce que j'utilise, c'est Claude Code que j'utilise, et la qualité du code qui sort de là est assez exceptionnelle. Il n'invente pas des librairies, il n'invente rien. Contrairement à un ChatGPT, il va m'inventer des affaires qui n'existent pas, puis des choses qui sur des éléments comme ça. Là.
Ben en fait, j'ai eu les deux expériences. J'ai fait les deux tests des deux côtés. Puis justement, je joue beaucoup avec Claude, puis avec VZero, qui en est un autre qui a été tuné spécialement pour faire de l'interface. Puis justement, je trouve ça très intéressant parce que des fois, ils vont faire une partie de la job super clean, super intéressant, mais il faut apprendre à faire ce qu'on appelle du trimming, de venir découper tout le truc qu'on veut pas avoir autour. Parce que ça se peut qu'il y ait une partie du code qui soit impeccable, puis là, tu te rends compte qu'il te donne un lien pour télécharger ce qu'il a fait, puis ça fait aucun sens. Tu peux même pas le compiler, tu peux même pas faire quelque chose. Il a comme fait une portion du travail, puis d'une manière ou d'une autre, qui a réussi à te l'afficher. Puis c'est ça que je trouve toujours un petit peu malaisant. C'est comme, mais comment il te l'affiche? Comment il est capable de montrer qu'est-ce qu'il a fait quand tu télécharges le fichier, puis tu devrais pouvoir reproduire, tu sais, la même chose finalement? C'est pas totalement égal, mais effectivement, en passant par des algorithmes qui ont du bon sens, qui sont vraiment entraînés pour faire ça, ça fait une grosse différence. J'étais pour reprendre ton point, puis je sens que le monde va avoir de la misère dessus, parce qu'on sort de tellement de sujets, puis je suis coupable un petit peu. C'est que tantôt, tu parlais d'un petit peu comment Apple, tu sais, comme cloqué vraiment tous ses petits agents à travailler ensemble. Je le vois pas très différent, puis je recommande vraiment de peut-être pas trop se fier à ce que je vais dire, parce que je vais essayer de l'imager à très haute surface. Parce que j'ai quand même fait des études sur le deep learning, qui est le concept justement du réseau de neurones en intelligence artificielle. Puis quand on regarde un réseau de neurones, il y a plusieurs formats différents, il y a plusieurs schémas différents. Un petit peu comme quand on construit une infrastructure informatique, on a une architecture qu'on suit. Ben dans un réseau de schémas, un réseau de neurones, c'est la même chose. Puis chacun des neurones fait un petit peu la même chose. Faut le prendre un petit peu comme tous des process qui ont un but confirmé. Am I stupid? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Puis chaque neurone a une job à faire, puis a été entraîné justement à faire ça. Puis ce qu'il fait, c'est que au bout d'une chaîne de neurones, ben il y a une vérité qui va sortir. Puis c'est la vérité de tout ce beau monde-là qui ont fait leur travail ensemble, nous donne une statistique au bout qui est probablement ce qui est vrai ou faux. Donc ça nous permet d'être plus efficace sur justement des algorithmes vraiment plus complexes, on s'entend. Mais c'est la même chose, justement, quand on reprend justement un chatbot qui parle avec un MCP. Ben, le MCP, la beauté, c'est qu'il a la chance d'être son propre algorithme, la chance d'être son propre agent, en fait, qui peut avoir l'algorithme qu'on veut, qui peut être super spécialisé. Puis moi, je le vois un petit peu comme ça, tu sais, que c'est la beauté d'où est-ce qu'on s'en va. Plus qu'il va en avoir, plus que ça va devenir, si on peut dire « plug and play » en anglais, prêt à mâcher, qui reste juste à les brancher ensemble. Je crois que ça va être assez incroyable ce qui va être possible de faire pour quelqu'un qui comprend vraiment la... Finalement, c'est quoi la résonance derrière tout ça? Qu'est-ce qui est possible d'en faire? Parce que pour revenir, je pense que ton exemple justement du code, justement avec Claude, qui est un bon exemple, ben je vois aussi des exemples que... Puis peut-être c'est peut-être le fait qu'on serait dû avoir des chatbots qui sont peut-être un petit peu plus spécifiés ou plus spécifiques vers des trucs, par exemple, comme la correction, des trucs comme ça. Ou que comme générer du texte dans certains cas, ça fait plusieurs fois que je reçois soit des courriels ou que je reçois des trucs justement qui ont probablement été retunés par Gemini ou par les algorithmes que
ça arrive. Et ça, ça veut dire que la personne n'a pas fait l'effort minimal de retoucher le texte pour enlever les artefacts qui sont typiquement AI. Donc ça c'est la paresse à l'ultime paresse, c'est là, comment là, t'as sauvé du temps en faisant au moins le gros du travail de ta rédaction. Prends au moins le 5 minutes ou le 2 minutes de juste retoucher un peu le texte pour pas que ça a l'air d'une machine qui l'a faite, là. Ça m'insulte, puis ça, justement, là.
C'était pour dire juste de relire le texte, ça serait déjà un bon début. Parce que dans certains cas, c'est ça qui est assez hallucinant. Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. Quelqu'un qui m'envoie un courriel. Je lis le courriel. Puis les yeux veulent me sortir de... Je suis genre... C'est clairement pas quelqu'un qui a écrit ça, mais pas parce que c'est mal écrit ou parce que... Genre, le texte fait du sens jusqu'à justement que tu tombes sur une hallucination que c'est comme... Mais c'est quoi ça? C'est de quoi que la personne veut me parler, puis c'est pas par erreur, là. Tu sais, c'est vraiment la personne c'est juste comme pesé sur envoyer. C'est fier à l'intelligence. Puis c'est un peu là mon point, tu sais, c'est que c'est comme, c'est pas parfait. C'est très intéressant que c'est rendu, qu'on puisse faire ça, qu'il y a ces interactions-là. Mais j'ai hâte de voir un petit peu la prochaine étape de où est-ce que ça va en arriver, qu'on va pouvoir connecter plusieurs modules ensemble, comme tu dis, plusieurs agents, pour dire, ben, hey, on peut-tu mettre ça waterproof, que quand j'envoie un courriel ou que j'envoie un message à quelqu'un, une lettre ou peu importe, tu sais, là mon idée, voilà ce que je voulais avoir, puis tu sais un petit peu comme l'apprentissage comme tu disais tantôt, puis même tu m'as fait penser avant même que l'iPhone existe, j'avais un BlackBerry, une des dernières trouvailles informatiques intéressantes au niveau des cellulaires. Mon BlackBerry avait déjà à l'époque, avant même tu sais qu'on tombe dans ce que Apple a créé, ou avant même que tu sais le iPod existe, si on peut dire l'iPod Touch, je dirais plus parce que c'est plus là qu'on a tombé dans un ère intéressante qui sera lié au iPhone, comme on disait tantôt, était déjà capable de faire des prédictions assez incroyables en train d'écrire. Donc, tu sais, ça remonte à quand même assez loin. Fait comme l'évolution prend du temps, mais peut-être que bientôt, on va pouvoir enfin avoir quelque chose qui fait le tour de la loupe ou qui est capable justement de s'intégrer à notre style de vie ou de un peu comme notre cellulaire, d'aller voir nos courriels puis de pouvoir le faire. C'est juste que j'ai l'impression que ça va raiser encore plus de points ou encore plus de questions. J'ai l'impression que la liste de checks quand on va remplir l'appel d'offres ou qu'on va on va régler des problématiques va devenir encore plus pointueuse sur ben les données appartiennent à qui fait quoi avec quoi. Puis c'est un peu là mon point de tantôt de revenir à la transparence. Comment que la transparence va devenir de plus en plus important pour que tout le monde puisse être sur la même longueur d'onde sur qu'est-ce que ça veut dire de l'intelligence, qu'est-ce que ça implique, puis que tu sais que un petit peu comme ce qui s'est passé, c'est bizarre, je fais un drôle de pont là, mais sur les applications cellulaires, j'ai fait une conférence là-dessus pas si longtemps que ça. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire quand on installe une application cellulaire, quel droit qu'on donne à l'application? Je pense qu'on est juste rendu là que ça soit de plus en plus clair puis qu'on trouve des mots pour expliquer au monde justement qui n'ont aucune idée ces permissions-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Puis je pense que c'est Google qui avait donné la première version qui était très intéressante, qui avait trouvé comme des, pas des hiéroglyphes, mais il avait trouvé une façon tu sais, de l'imager pour que même un enfant qui a aucune idée justement ait une idée de « Hey, cette application-là, elle va faire ça avec ton téléphone ou avec tes données ». Ou elle a un risque, elle va essayer de te vendre quelque chose ou qu'elle va X, Y, Z. C'est très bien expliqué. Puis je pense que de plus en plus, ben cette transparence-là va gagner en poids ou va peut-être nous aider à régler le problème sur le long terme.
Là. Ouais, je suis d'accord. Puis c'est intéressant. Puis, parce que pour moi, le problème qui est mentionné sur puis ce que tu as répondu dans l'appel d'offres notamment, c'est un faux problème. Parce que on proposait les mêmes questions pour ce qu'on héberge en cloud, pour peu importe le service qu'on utilise, on est toujours la même chose. Fait qu'on s'est comme réveillé, le AI ou le Gen AI a réveillé les questions qui auraient dû être posées bien avant sur notamment le cloud, les applications qu'on installe sur nos téléphones, tout cet écosystème-là dans lequel on vit, qui est aussi invasif que le Gen AI, si on veut le voir comme ça, aurait dû se soulever avant. Fait que là, on a eu le wake-up call a été fait avec le Gen AI. Pour moi, le Gen AI n'est pas plus invasif que les applications que je vais installer sur mon téléphone, que les fournisseurs cloud peuvent avoir, que tous ces éléments-là. Puis ensuite, les gens, puis c'est des espaces où je comprends pas pourquoi les gens sont étonnés. C'est comme s'ils se réveillaient de quelque chose. Là, on va parler de DeepSeek, par exemple. T'sais, le monde sont énervés. Hey, les données sont envoyées en Chine. Ben oui. Pourquoi t'es surpris là de cet élément-là, puis que le gouvernement chinois peut faire ce qu'il veut avec les données? Oui, ChatGPT aux États-Unis, nos données sont envoyées aux États-Unis, Mistral est en France, nos données sont envoyées en France, et les pays locaux peuvent essentiellement faire un peu ce qu'ils veulent avec les législations qui sont dans ces pays-là pour aller les chercher. Aux États-Unis, bon là, on a un changement de gouvernement, il est beaucoup plus hostile à tout le monde finalement. Donc, il pourrait tenter d'aller voir ces éléments-là. La Cour aux États-Unis, à l'heure actuelle, a forcé OpenAI de retenir de façon éternelle les conversations dans ChatGPT. Fait qu'on est dans un environnement comme ça. Fait que là, tu sais, on est un peu surpris. Mais vos recherches dans Google sont retenues, sont enregistrées pour toujours. Pourquoi vous êtes surpris dans ChatGPT? Pourquoi vous êtes surpris que ça va en Chine, que c'est DeepSeek? Là, pour moi, il y a des choses, il y a quelque chose qu'on a raté quelque part dans l'explication aux gens pour comment ça marche. Pour moi, c'est, il y a même pas de surprise. J'utilise pas DeepSeek parce que j'ai même pas une grande réflexion philosophique à ce que je devrais utiliser. Non, j'utiliserai pas. Les données s'en vont en Chine, c'est mal. Quand un Chinois est hostile à l'Occident, c'est facile. Fait que là, tu sais, puis là, c'est la même chose pour les applications. Tu sais, c'est comme Temu, Alibaba, toutes ces affaires-là. TikTok, c'est la même chose. Les données sont envoyées en Chine. Mais là, pourquoi le monde se réveille? Ils sont comme, ouh, mais là, oui, mais ça a toujours été comme ça. Pourquoi vous êtes surpris? Il y a vraiment un bout dans l'histoire qu'on a raté, puis j'aime bien le fait que de ramener au niveau de la transparence et l'appropriation de cette transparence-là, que les gens fassent quelque chose avec, qu'ils comprennent ce qu'ils font avec l'information qu'ils leur ont donnée. Parce que je pense que ça, c'est le bout d'éducation qui manque. Puis je regarde, mais tu sais, mes parents ont de la misère à comprendre. Toutes les personnes qui ne travaillent pas dans le milieu sont toujours un peu surpris de quand je leur dis « Oui, mais vos données sont en Chine. » Puis le gouvernement chinois peut les regarder. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette idée-là? Là, les gens, ouais, non, pas tant. Ben, c'est ça. TikTok, c'est ça. Puis il a été mis à l'amende dernièrement en Allemagne, je crois. Justement parce que les enquêtes ont démontré que, selon le RGPD, les données sont envoyées en Chine. Ce qui, selon le RGPD, n'est pas autorisé. Donc, tu sais, c'est des éléments comme ça. Puis les gens sont comme un peu étonnés, surpris. Mais oui, mais c'est pas parce que tu étais cajolé par quelque chose qui est à la mode que, tu sais, ça revient comme ma mère disait ou mes parents disaient. C'est pas parce que tout le monde saute en bas du pont que tu devrais sauter en bas du pont aussi. C'est un peu, là.
C'est pas mal la réalité. Puis en fait, tu m'as même amené sur un point encore plus drôle puis qui relate à ce que nous on fait. T'sais, comme nous, notre grosse, on peut dire, c'est une grosse partie de nos algorithmes sont basés sur l'analyse du trafic, l'analyse des logs ou l'analyse bref comportementale qui découle de tout ça. Enlève-moi les données d'un matin, puis là, on parle pas du concept des envoyés en Chine. On s'entend, nous, on les stocke au Canada. On applique vraiment ce qui s'appliquerait justement avec le RGPD. L'idée, c'est que les données restent ici. Si je déploie pour des clients aux États-Unis, ça reste aux États-Unis. En France, la même chose. Je veux pas avoir une pollinisation, mais comment tu veux que j'entraîne un algorithme puis que je veux que je m'améliore? Ça vient au même que le téléphone, s'il n'y aurait pas accès à lire nos messages, à voir comment on écrit, comment qu'on voudrait avoir cette intelligence-là, ça serait impossible. Tu sais, puis c'est vraiment tout ce concept-là qui rend ça plus compliqué, en fait. Parce que finalement, ça crée cette bulle d'incompréhension-là. On dirait que c'est comme pas assez clair où est-ce qu'elle est la limite, en fait.
Ouais, ben notamment, puis un peu les gens vont mélanger, surtout dans les modèles que vous utilisez par rapport au GenAI. Dans vos modèles à vous autres, il n'y a aucune capacité à faire vomir les données d'apprentissage, parce que dans un LLM, on est capable de faire ça, de lui faire restituer qu'est-ce qui a été utilisé pour entraîner. Donc, il y aurait potentialité que c'est de l'information confidentielle qui passe dedans, qui soit capable de la redonner d'une façon ou d'une autre, peu importe la technique qu'on utilise. Dans votre cas, vos algorithmes ne font pas ça. Ils savent entraîner des réseaux neuronaux qui vont sortir un chiffre à la fin, une statistique ou un élément comme ça. Et dans quel cas, il est impossible de faire sortir l'information d'entraînement qui a été utilisée a priori. Donc, une fois que l'information d'entraînement a été faite, dans votre cas, pour l'algorithme, il n'y a plus d'existence. Ensuite, elle a juste servi à modeler les poids dans les réseaux neuronaux, puis c'est tout, là.
Exactement. Fait qu'il n'y a pas un risque aussi intense au niveau justement des données de la personne ou des données personnelles. Il n'y a pas un risque. Bref, ça réduit vraiment tous les risques au minimum pour rendre ça le plus simple possible, le plus efficace possible pour nous de faire ce qu'on fait le mieux. Puis de l'autre côté, ben, encore une fois, c'est le même défi, c'est de faire transparaître ça. Puis c'est un petit peu ça que je t'ai présenté tantôt, qui était l'idée de ah, tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé? À quoi qui ont servi nos algorithmes? Voilà toutes les statistiques que ça génère sur chacune des partiels de chacun de nos petits agents, justement, qui ont filtré les données. Qu'est-ce qu'ils ont été capables de nous sortir? Comment je suis capable de te l'afficher? Ça vient enlever tous les points d'interrogation au niveau de est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de mal avec mes données? L'anonymisation de ces données-là, qu'est-ce qu'ils ont de l'air une fois qu'ils sont stockés? Le résultat? C'est drôle, mais depuis qu'on a fait le shift justement vers cette nouvelle interface, cette nouvelle façon de présenter les choses-là, la transparence est rendue un de mes points de vente les plus forts. Il y a pratiquement pas de solution aujourd'hui. Il y a beaucoup de solutions sur le marché aujourd'hui qui ont encore la mentalité « Trust me, bro, là, ça va fonctionner, I'm selling you some magic shit. » Puis c'est plate, mais c'est comme ça la vie. Il y a beaucoup de solutions, beaucoup de choses qu'on achète dans la vie. Puis justement, je viens de recevoir un beau petit colis d'Ali Baba, qui est un bel exemple, parce que j'ai été forcé justement d'acheter quelque chose sur Alibaba parce que j'étais prêt à trouver quelque chose ici qui a été capable de me dire qu'est-ce que j'achetais ou comme, tu sais, il y a bien des produits qu'on achète que c'est comme, ben, on ne sait pas, on achète pareil, puis on est pogné avec un problème parce que justement, on comprend même pas qu'est-ce qui se passe, c'est pas transparent, il n'y a pas de documentation, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. On fait le mieux avec ce qu'on a, puis c'est un petit peu la même idée avec l'intelligence artificielle. Tu sais, une fois quand tu as des résultats, ben comment tu les affiches, ça a tout un impact sur la réflexion, puis comme les prochaines étapes de comment on veut gérer la chose. puis comment on se sent aussi quand on interagit avec nos... Tu sais, des fois, ça peut être nos propres données, mais ça reste que j'y regarde, puis je les comprends pas, ben ça fait un petit peu un dégoût de payer pour cette analyse-là dans un certain cas, quand t'es comme « OK, cool, ça a l'air de fonctionner » versus « OK, cool, ça fonctionne, puis en plus, je suis capable même d'apprendre quelque chose ou je suis capable même d'arriver à un autre point que... » C'est rendu quasiment trippant pour quelqu'un justement qui aurait peut-être pas les connaissances de regarder ça, faire comme hey, c'est bien simple finalement. Là. T'sais, c'est, une fois que c'est bien expliqué, que c'est bien traçabilisé, si on peut dire, je sais pas si ça serait une bonne expression, mais c'est un petit peu ça l'idée de la transparence à travers de tout ça. Puis je pense que c'est ça qui doit être mis de l'avant un petit peu plus dans cette industrie-là pour que le monde justement arrête de poser des questions que.
Ben c'est ça, ça va amener la compréhension chez les gens. Puis de toute façon, puis je pense que ça va pour vous autres devenir un différenciateur très important. Puis pour tous ceux qui vont vouloir percer à l'avenir avec comment le monde change, avec comment la géopolitique change, le besoin de transparence, je pense qu'il va devenir un élément primordial pour beaucoup. Si on veut faire des affaires, là, vous êtes allé en Europe, fait que vous êtes en contact. Donc, eux sont très forts sur ce degré de transparence-là. Donc, là, culturellement, ils sont déjà là. C'est en train de basculer ici aussi, tranquillement, en train de commencer à s'instaurer, à rentrer dans les habitudes, en espérant que les consommateurs, de façon plus large, nos parents, par exemple, nos amis, qui sont pas dans le domaine, puissent aussi commencer à exiger cette transparence-là pour que ça serve tout le monde, finalement. Là,
exactement.
Oui, fait que ça fait un bon tour. On termine par la transparence, c'est quand même bien. On termine sur une bonne note cette fois-ci. C'est une chose positive. Fait que merci énormément de cette participation-là. C'est un sujet qui était très intéressant. Je pense que on va aider un peu à simplifier, aider la compréhension des gens, puis en espérant que tranquillement on amène cette compréhension-là un peu plus loin pour qu'on ait moins de questions frivoles, pour reprendre ce que tu dis, puis qu'on puisse faire avancer l'état de l'art réellement, en l'occurrence.
Effectivement.